Nous sommes en compagnie de Quinn Delaunay, auteur de Naissance de la Chine moderne, l'empire du milieu dans la mondialisation, paru en 2014 aux éditions de l'Atelier. Alors Quinn Delaunay, pourquoi ce livre ?
Pourquoi ce livre ? C'est vrai que ce livre prend place parmi les très nombreuses publications qui sortent aujourd'hui en France. Mais je pense qu'il a son originalité, parce que la plupart des livres qui sortent parlent plutôt de la situation économique de la Chine. On s'étonne devant les succès de la Chine et son élévation au rang de deuxième puissance mondiale, ses succès et ses difficultés. Mais mon livre, je pense, a un apport original, c'est qu'il dit que pour comprendre le succès de la Chine à l'heure actuelle, il faut remobiliser son histoire et sa culture, ce que nous ne pensons pas toujours à ces éléments-là, parce que nous vivons beaucoup dans l'instant. Nous nous intéressons aux faits et nous projetons notre analyse de ces phénomènes. Nous projetons notre propre culture, nos propres systèmes de valeurs.
Oui, tout à fait. Alors, vous avez dans cet ouvrage de référence fait un important travail à la fois d'histoire comparée et de sociologie.
Oui, je pense que pour comprendre la Chine, donc, comme j'ai dit, il faut faire un retour sur son histoire, sa culture. Et pour ce faire, le plus simple, c'est de comprendre que sa situation actuelle se situe dans la continuité de son histoire depuis au moins 150 ans, si on veut prendre un découpage le plus proche de nous. Mais pour comprendre aussi cet espace de temps assez court, finalement, dans l'histoire de la Chine, il faut aussi se replonger dans l'histoire de sa culture, de sa pensée, sa représentation du monde et son organisation sociale. Je pense qu'il est nécessaire de comprendre parce que nous trouvons en face d'un monde totalement différent du nôtre, parce que dans son histoire, face à des injonctions du milieu naturels et sociaux, historiques, la Chine a été amenée à trouver des solutions, des réponses totalement originales. Mais c'est le fait aussi de toutes les sociétés. Toutes les sociétés se sont trouvées confrontées à des problèmes de leur milieu et ont trouvé des solutions qui leur sont propres. Donc je pense que ce livre est aussi, peut-être aussi considéré comme une réflexion sur notre propre histoire, dans la mesure où la France se trouve aussi à l'heure actuelle dans la mondialisation. Donc elle a aussi à s'interroger sur sa culture et l'impact de la mondialisation sur son propre mouvement.
Et nous nous trouvons tous à la croisée des chemins en ce moment. Comment vous avez travaillé pour écrire ce livre ?
Alors, il y a deux façons de travailler. Ce livre a une composante sociologique forte, hein, parce que c'est ma formation, c'est mon travail. Il y a deux façons de travailler en sociologie. C'est soit penser que les individus, par leur action, construisent la société et la font progresser, soit considérer que la société est un tout et qu'elle est englobante de l'individu et que c'est elle, c'est son mouvement qui détermine l'individu. Moi, je pense qu'il faut essayer de faire les deux à la fois, parce que le temps de la société est un temps long. Il dépasse largement celui de l'individu. Lorsque l'individu naît, la société existe déjà depuis très longtemps. Mais l'individu, dans l'instant présent, peut faire évoluer la société par son activité. Et l'individu ne naît pas vierge, il naît dans une famille qui appartient à un milieu social qui comporte elle-même une histoire qui est celle de l'histoire du pays dans lequel il naît. Donc, si vous voulez, j'ai travaillé sur les deux aspects. C'est d'une part l'aspect sociologique et historique, c'est-à-dire que je me suis penchée sur la culture chinoise telle qu'elle s'est formée au fur et à mesure de la construction de la société chinoise elle-même et dont on voit les restes aujourd'hui dans le système de représentation politique et idéologique. Ça, c'est pour la partie société. Et j'ai travaillé sur la partie individu en faisant des entretiens, c'est le propre de la sociologie, de travailler sur le terrain, j'ai interrogé des individus. Dans la mesure où la Chine comporte une population de plus d'un milliard d'habitants, il est évident qu'il n'était pas question du tout de prendre un échantillon représentatif de quoi que ce soit. Donc, dans la mesure où je ne parle pas non plus le chinois, il me fallait avoir des contacts avec des individus dont je pourrais comprendre un peu la situation et qui seraient porteurs quand même de l'avenir de la Chine. Pour ce faire, j'ai pris des jeunes, donc l'avenir du pays, des jeunes appartenant à certains milieux, parce que au fond, l'État chinois à l'heure actuelle pratique une politique et compte beaucoup sur ces couches jeunes, nouvellement qualifiées, etc., ouvertes sur le monde, pour les prendre comme acteurs de la nouvelle société. Donc j'ai pris des étudiants en fin d'études, des jeunes diplômés en recherche de travail. Puis j'ai trouvé aussi des salariés, mais j'ai trouvé aussi des adultes déjà dans l'activité. Parmi ces individus en activité, j'ai trouvé des chefs d'entreprise, une personne responsable d'un département financier d'une grosse entreprise.
Oui, finalement, vous avez un large panel, finalement.
Oui, c'est un panel hasard.
Malgré ce que vous disiez au début, il est quand même assez large. Plus large que vous pourriez l'imaginer, surtout quand nous, on lit ce livre avec nos yeux d'occidentaux et de français.
Bien sûr.
Alors, vos outils d'analyse passent par le filtre du marxisme, il me semble, et de l'étude des moyens de production. Est-ce que ce prisme est encore pertinent ?
Disons que moi, je suis passée par Marx parce que je crois qu'il faut reconnaître sa place dans les sciences sociales. Mais je ne fais pas référence seulement à Marx. Je pense que Marx est l'un des fondateurs des sciences sociales. Il a mis en place énormément de choses, des concepts, des méthodes de travail. Et qui, par la suite, additionnés à d'autres chercheurs, ont donné naissance à des disciplines spécialisées. Donc, il n'était pas question de faire référence seulement à Marx. Je pense que ce sera un peu étroit. Mais de saluer Marx comme le penseur qui a réfléchi au problème de l'évolution des sociétés. Donc, le mode de production tel qu'il a étudié se réfère à une période très précise de l'histoire de l'Europe occidentale. C'est le passage de la féodalité au capitalisme. C'était son ambition. Il n'avait pas d'autres ambitions que celle-là.
C'était déjà
assez modeste. Mais il a mis en place quand même une méthode, une façon de penser, c'est-à-dire d'abord l'alliance entre la théorie et la pratique. Il a donné naissance à des... il a produit des concepts, mais il a produit aussi une méthode de travail qui est l'investigation de terrain. Et ça, je crois qu'il est très important pour nous, chercheurs, de nous intéresser d'abord au terrain. Naturellement, quand nous partons sur le terrain, nous n'avons pas la tête totalement vide. Nous avons en tête l'enseignement que nous avons reçu, les références qui nous convenaient, etc. Mais je pense que le passage par le terrain, l'observation, est absolument indispensable.
Alors, finalement, il s'agit d'expliquer les fondements du capitalisme en Occident en lien avec ce qui se passe au même moment dans la sphère asiatique. C'est un peu le propos de...
Mon propos, c'est que... Et le titre de mon livre en donne une première idée, c'est « Naissance de la Chine moderne ». C'est-à-dire qu'on est étonné de voir que la Chine moderne ne naîtrait qu'à l'heure actuelle. Parce qu'au fond, il y a des historiens qui pensent que la modernité a saisi la planète depuis plus d'un siècle. Alors moi, je crois que justement, la modernité, d'abord, qu'est-ce que c'est le problème de la modernité, est-ce que... quelqu'un se sent-il vraiment pas moderne? Je crois que ça n'existe pas beaucoup. Déjà au XIIe siècle, le moine Roger Bacon disait « nous les modernes, nos moderni ».
On est toujours moderne de son époque.
On est toujours moderne. C'est-à-dire, au fond, on répond, on est adapté à notre époque, c'est ça. Alors, la modernité, je crois que si on s'en tient uniquement à ce mot, sans donner le contenu, on risque de ne pas bien comprendre les problèmes des sociétés traditionnelles, dites traditionnelles, c'est-à-dire non occidentales, qui entrent à l'heure actuelle dans la mondialisation en étant obligées de se moderniser. Parce qu'une fois, finalement, que ces sociétés traditionnelles sont en contact avec la civilisation industrielle occidentale, société moderne, aucune d'entre elles ne voudrait revenir en arrière, c'est évident. Donc le problème pour ces sociétés, c'est comment entrer dans la modernité avec leur passé. Donc j'ai essayé de définir ce que c'est que la modernité et j'ai dit que ce n'est pas uniquement un qualificatif, c'est une configuration globale. C'est-à-dire que la modernité comprend plusieurs éléments. Les éléments idéologiques, organisation sociale, de représentation de nos rapports avec la nature, c'est-à-dire... le rapport à la science, à la nature, ce rapport aux sciences et aux techniques. Voilà, c'est sur ces trois composantes que j'ai essayé de comparer le problème de la Chine. C'est-à-dire la modernité, au fond, ce que j'ai dit, c'est une configuration globale qui est née d'un processus de développement de l'Europe occidentale. C'est-à-dire que c'est un processus qui a pris du temps et qui est assez logique dans son développement. C'est une société qui était une société d'individus dès le point de départ, si vous voulez. Elle est axée autour de la propriété privée.
Alors, on va l'analyser un peu plus avant dans les minutes qui suivent. Mais malgré tout, pour comprendre la Chine d'aujourd'hui, vous nous emmenez bien loin et vous nous emmenez au néolithique. Puis ensuite, dans l'Antiquité, aussi bien grecque que romaine, et aussi l'Antiquité chinoise. Alors, moi, je me demandais à quoi ressemblait la société chinoise au début du néolithique, aux alentours de 8-10 000 ans avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui, finalement, différait entre cette société chinoise néolithique et cette société néolithique occidentale?
Oui, alors, quand je parle de néolithique, j'ai pas comparé les deux sociétés néolithiques, mais je pense que un certain nombre de représentations le système de représentation en Chine, je pense, remonte très loin. D'abord, la Chine se réfère souvent à un passé plusieurs fois millénaire. Je pense aussi qu'elle est, par rapport à l'Occident, elle était plutôt stabilisée autour de l'agriculture. Finalement, quand on regarde la façon dont la Chine s'est peuplée, comparé à la Grèce, par exemple, on voit une grosse différence d'évolution. D'abord, la Chine, c'est un immense territoire avec des fleuves, avec des frontières pas aussi affirmées qu'en Occident. Les populations se sont installées sur des terres qu'elles ont défrichées. Les familles se sont stabilisées autour d'un noyau constitué par l'ancêtre commun. Lorsque les familles s'accroissent et que les places manquent dans l'ancien village, un groupe s'en détacher et aller construire un autre village à côté, sans rompre le lien avec la famille d'origine. Et de fil en aiguille, vous avez quand même un certain nombre beaucoup de familles qui s'installent qui s'installent en proximité, qui constituent finalement une communauté de civilisation et de culture.
Et c'est ça l'origine du clan ?
L'origine du clan, oui. C'est-à-dire, enfin, si vous conservez des liens très étroits avec le chef de famille et que vous hiérarchisez les relations entre les membres de la famille jusqu'à les inscrire dans les attitudes, les comportements, etc., vous consolidez finalement le clan. Parce que en Chine, le culte des ancêtres est très important. Le culte des ancêtres, ce n'est pas le culte des morts. Le culte des morts, beaucoup de sociétés l'ont pratiqué. Mais le culte des morts, c'est une fois que les morts sont morts, enfin que les individus sont morts, on leur rend des hommages à des moments donnés de l'année.
Mais avec des rituels
précis. Et puis on les oublie un petit peu. il ne joue pas un rôle très important dans la société, qu'ils ont quittée. Le culte des ancêtres veut dire que l'ancêtre continue à bénéficier d'un statut précis, mais que les ancêtres vivants participent aussi de ce culte-là, de sorte qu'il y a une continuité entre les vivants et les morts qui fait qu'il est très difficile de faire bouger les choses. Il y a une autorité absolue sur la cellule familiale. Voilà. Et je comparais ça à la Grèce, puisqu'on dit que la Grèce est un peu l'ancêtre de l'Occident. Quelque part, je pense que c'est vrai, parce qu'il y a il y a une diffusion de la culture gréco-romaine ensuite en Occident, et il se trouvait que les structures sociales et mentales, politiques de l'Occident convenaient très bien à cette culture-là. Mais les Grecs, par exemple, se sont construits différemment. D'abord, ce sont des petits groupes ethniques beaucoup moins importants que la Chine. Les Grecs, tels que nous connaissons à travers les textes, ne sont pas descendus non plus de rien. C'est-à-dire, au départ, il y avait aussi une multiplicité d'ethnies dites grecques, parenté du point de vue linguistique, du point de vue des mœurs, mais il y avait quand même une vingtaine de langues différentes. Et c'est que progressivement que le grec ancien tel que l'on connaît s'est constitué et dont le modèle se trouve à Athènes. Les Grecs, par exemple, n'étaient pas un peuple très dense. Ils étaient pas, le continent grec n'était pas surpeuplé. De sorte que, si vous voulez, ils avaient besoin d'apports nouveaux. Ils pratiquaient l'esclavage. Tandis que la Chine a une densité de population telle qu'elle n'avait pas besoin de prendre des apports extérieurs pour les réduire en esclavage. Ce qui fait que quand même il y a une relative continuité entre les uns et les autres, tandis que les Grecs, avec l'arrivée des esclaves venus de tous horizons, des échanges.
Voilà, il y a eu un métissage plus important.
Oui.
Vous signalez aussi que vers le Xe siècle et avant Jésus-Christ et Homère, la notion d'individu et de héros émerge, puisqu'effectivement, le héros grec est au fondement de notre société. Et vous en profitez pour démonter l'idée de miracle grec.
Oui, je pense que quand on parle de miracle grec, on fait comme si les choses étaient venues, on ne sait où. Mais je pense que c'est aussi une évolution, alors miraculeuse peut-être, mais qui vient de la conjonction de plusieurs facteurs. Hein. Et le facteur principal, probablement, c'est le fait que c'était une société d'individus. C'était des groupes, finalement, assez peu denses, qui permettait quand même une pratique de la démocratie, hein, enfin de la démocratie à ses débuts au moins, hein, parce que c'est Jean-Pierre Vernant qui a beaucoup travaillé sur les textes grecs, montre comment Télémaque, argumentait devant ses compagnons. Il prenait le sceptre, qui était le symbole du pouvoir. Il se plaçait au centre d'un cercle formé par les guerriers. Il parlait le temps qu'il fallait. Et puis, quand il avait terminé, il déposait le sceptre dans les mains de la personne qui le suivait.
Voilà,
donc il y a une démocratie.
Une manière de faire tourner la parole,
voilà.
En fait.
Disons que la démocratie, c'est important parce qu'au fond, c'est aussi une contrainte d'argumentation. Comme toute décision devait avoir l'accord des membres qui composent la société, il fallait argumenter. Il n'y avait pas de chef dont le statut était tel que chacun devait se mettre au garde-à-vous et acquiescer.
Voilà. Ce qui n'était pas le cas en Chine.
Voilà. Chine, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a une hiérarchisation de la cellule familiale, déjà, ensuite du village. Voilà. De sorte que il n'y avait pas cette nécessité d'argumentation, puisque le statut social déterminait finalement où se trouvait la vérité.
Alors, vous évoquez dans votre ouvrage l'histoire de la formation de la propriété de la terre. Vous dites que l'Occident, évidemment, c'est le règne de la propriété privée qui a donné naissance au féodalisme et qu'en Asie, il y avait des communes de villages plutôt. Alors, Marx a parlé du mode de production occidental et du mode de production asiatique. Alors, qu'est-ce que le mode de production asiatique, puisque nous en sommes sur la Chine ?
Un mode de production, au fond, ce n'est pas ce que vous avez trouvé dans la nature, les sociétés. C'est un squelette. C'est une façon de penser, c'est un schéma qui permet de rassembler des éléments apparemment disparates. Hein. Donc c'est une façon...
C'est une analyse.
Oui, voilà, c'est un schéma, un squelette de société. Le mode de production asiatique se différencie des autres modes de production par la propriété collective de la terre, qui appartient donc à la communauté villageoise, et par la décentralisation aussi du pouvoir. C'est-à-dire que, même à l'heure actuelle, l'autorité de l'État s'arrête à la porte du village. Mais ça ne veut pas dire que c'est la démocratie communale telle que nous allons entendre, telle que nous l'entendons en France, où les individus à l'intérieur du village développent aussi des arguments, font des propositions, et votent. Ce n'est pas ça. En Chine, à l'intérieur du village, vous avez la hiérarchie des familles. Vous avez à l'intérieur des familles, vous avez le représentant de la famille, le chef de famille, etc. De sorte que cette démocratie, cette décentralisation du pouvoir est jouée en face de l'autorité centrale.
Voilà. Alors vous dites qu'à Knossos et Mycène, il y avait aussi un mode de production asiatique, donc qui fut détruit par les Doriens, et qu'il existait aussi en Amérique avant le XVIe siècle et la conquête espagnole. Alors, on a dit aussi qu'en Chine, il n'y avait pas eu d'esclavagisme, qui est né en Grèce. Mais finalement, géographiquement et historiquement, l'origine de la civilisation chinoise se trouve dans le Shaanxi.
Oui.
Donc avec les Chou au IIIe siècle.
Oui.
Donc, vous pouvez nous en dire plus sur cette dynastie.
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, un mode de production ne se trouve pas à l'état pur dans aucune société. Hein. C'est une façon de penser, de construire quelque chose. C'est intellectuel, si vous voulez. Hein. De sorte qu'effectivement, on peut trouver le mode de production asiatique en Égypte, en Amérique latine, si vous définissez par quelques traits tels que la propriété collective, etc., on trouve évidemment beaucoup de différences à l'intérieur. Mais ce qui ne varie pas, c'est la propriété privée, la propriété de la terre. Bon, alors, le centre de la culture chinoise se trouve... le noyau de la culture chinoise, les Chinois disent que c'est au centre, puisque c'est là qu'a commencé l'unification de l'Empire. L'Empire a commencé par le centre. Mais comme les Grecs, les Chinois ne constituent pas un seul groupe. Il n'est pas apparu un Chinois avec une langue à un moment donné. C'est un ensemble de populations, d'ethnies, qui se considéraient comme... parents, voisins, par rapport à une civilisation qui se sont retrouvés ensemble. C'était ils étaient agriculteurs, sédentarisés. Il y avait des nomades qui circulaient entre les enclaves de ces agriculteurs sédentarisés et qui étaient considérés comme des barbares. Les Chinois avaient trouvé une stabilité dans l'agriculture et grâce à cette stabilité, ils produisaient une certaine richesse dans la production de la nourriture et ils pouvaient aussi réfléchir à une organisation sociale plus évoluée que le nomadisme, si vous voulez. Donc, à partir de là, se sont développés des courants de pensée qui ont été ensuite structurés par des philosophes tels que le taoïsme, ou bien Lao Tzu, ou bien Confucius. Hein. Confucius et Lao Tzu n'ont pas inventé leur système à partir des élucubrations de leur cerveau. Ils étaient eux-mêmes dans la civilisation chinoise, dans une certaine culture, donc certaines croyances. Et ils ont rationalisé, finalement, tout ce système de représentation. Et ils ont construit, des croyances et, un système de pensée.
À propos de croyances, les Chinois et les Occidentaux n'ont pas bâti la même société, et principalement à cause de leur manière différente d'aborder le sentiment religieux. Par exemple, les dieux grecs ressemblent à des hommes et les dieux chinois font référence au cosmos. Et il me semble que les Chinois, contrairement aux Occidentaux, ne sont jamais passés de la phase des dieux à celle du dieu, bien que le ciel, finalement, y joue un grand rôle.
Bien, c'est-à-dire que, oui, les Chinois n'ont jamais personnalisé un dieu. En Occident, l'Occident est la Méditerranée. C'est le monothéisme, c'est-à-dire que la notion de Dieu se concentre sur une seule personne.
Voilà, mais le ciel.
Une seule entité. Pour les Chinois qui baignaient finalement dans un environnement naturel, dans l'agriculture, ils ne se sont jamais vraiment séparés de cet élément naturel. Pour eux, il n'y a pas un dieu, mais il y a un cosmos dans lequel il se trouve. Et l'homme est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Hein. L'homme reçoit une parcelle du cosmos. Il reçoit aussi un certain nombre de messages qu'il doit mettre en place pour devenir sage, finalement, pour intégrer la nature.
Mais la religion en Chine a très vite été instrumentalisée par le pouvoir.
La religion en Chine était instrumentalisée par le pouvoir. C'est-à-dire que là aussi, il y a une différence entre l'Europe et la Chine. C'est que l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire du christianisme. C'est-à-dire que le christianisme, au point de départ, dans l'Empire romain, a été persécuté. Il était persécuté, donc les communautés chrétiennes n'étaient pas investies dans les affaires terrestres. Elles s'occupaient davantage de la relation avec Dieu. Et la religion, dans le message chrétien, chaque individu est fils ou fille de Dieu.
C'est
l'individu qui est reconnu comme tel. En Chine, ça ne se passe pas du tout ainsi, parce que il n'y a pas de Dieu proprement dit. Il n'y a pas non plus de séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique, tandis qu'en Occident, longtemps, le pouvoir religieux, enfin le christianisme, a été persécuté et séparé. L'Église n'avait pas le rôle qu'elle a acquis par la suite de la conversion de Constantin, l'empereur Constantin. Lorsque l'empereur Constantin s'est converti, il a quand même, réintégré l'Église. Il a intégré l'Église dans les affaires terrestres en lui donnant un certain rôle. Et du coup, si vous voulez, il a fait du christianisme la religion officielle de Rome. Et pourquoi a-t-il fait du christianisme la religion officielle de Rome? C'est parce qu'il avait constaté que les communautés chrétiennes étaient très nombreuses autour de la Méditerranée, qu'elles n'étaient pas finalement, qu'elles étaient très solidaires, très organisées, et qu'elles pouvaient constituer une idéologie globalisante et unifiante de l'Empire. Donc, conviction personnelle peut-être, mais aussi certainement par utilisation du christianisme comme idéologie de l'Empire romain, il a réintégré l'Église dans les affaires terrestres et par la suite, l'Église a acquis beaucoup de biens. Mais il y a quand même une séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux.
Oui, tout à fait.
Il y a eu toute une luttes entre les rois et la papauté pour acquérir l'autonomie. Le problème ne s'est pas posé ainsi. Je dirais, en Chine et dans d'autres sociétés, d'ailleurs non occidentales, il n'y a pas de séparation entre la religion et le politique. Ce que l'on voit à l'heure actuelle dans beaucoup de sociétés, et c'est un problème C'est un problème à résoudre lorsque le religieux prend beaucoup de place dans la vie politique. Pour les Chinois, ce n'est pas pendant longtemps l'empereur représentait la société chinoise pour les rites aux ancêtres, jusqu'à la fin de l'Empire, jusqu'en 1911, l'empereur rendait encore un culte au dieu des céréales. Vous imaginez une fête qui rassemble à peu près 100 000 personnes. C'est comme si en Europe, on rendait un culte à Cérès jusqu'au XXe siècle.
C'est vrai que la Révolution aurait presque eu envie de faire ça. Il faut quand même rappeler que l'empereur en Chine avait tendance en tout cas à se prendre pour un dieu. Vous êtes bien sur Radio Campus Lille et vous écoutez Bruit de Chine sur le 106.6 de la bande FM. Nous sommes toujours avec Quinn Delaunay à propos de son livre « Naissance de la Chine moderne, l'empire du milieu dans la mondialisation ». Alors finalement, quelque part dans votre livre, vous dites « La Chine cherche à réaliser une synthèse, le savoir chinois comme substance, le savoir occidental comme fonctionnement ». Voilà un sacré programme. Est-ce que vous pouvez préciser ?
Oui. Pendant très longtemps, la Chine se considérait comme le centre du monde. D'abord, son nom, c'est bien l'empire du milieu. C'est-à-dire qu'elle se pensait comme dispensatrice de civilisation aux autres peuples. C'est ce qu'elle a fait avec toutes les ethnies qui étaient autour, qui peuplaient la Chine. Elle a réussi à construire une société agrégeant énormément de populations qui vivaient sur le même territoire. Mais c'est qu'au XIXe siècle, l'arrivée des Occidentaux change un peu sa perception des choses. Dans un premier temps, avant l'arrivée des Occidentaux, la Chine n'était pas un long fleuve tranquille. Il y avait beaucoup d'insurrections, il y avait des luttes sociales extrêmement fortes, il y a des mouvements de piraterie, etc. Il y a des changements aussi des dynasties. Lorsque les troubles sociaux étaient très, très importants, on considérait que l'empereur n'était plus mandaté par le ciel. Il était considéré comme indigne de poursuivre sa mission et une autre dynastie remplacer l'ancienne. Et les choses continuent, évidemment. Mais avec l'arrivée de la Chine, le problème se pose différemment parce que l'Occident arrivait avec des techniques supérieures. Mais dans un premier temps, dans un premier réflexe, le premier réflexe chinois a été de faire partir ces sauvages, parce que pour ces barbares, le premier contact avec l'empire du milieu qui était dispensateur de civilisation, c'était de dire que les autres sociétés étaient composées plutôt de barbares. Mais progressivement, il a fallu quand même se rendre à l'évidence et que les techniques était ce qui permettait la supériorité de l'Occident. Mais le problème était de savoir si on peut prendre les techniques occidentales tout en conservant sa façon de vivre et de faire. Donc les techniques occidentales, comme moyen de s'en sortir, et la culture chinoise comme substance, comme essence de la Chine. Le problème se pose toujours aujourd'hui. Non pas dans les mêmes termes. Les Occidentaux ne sont plus considérés comme les barbares, mais comme des interlocuteurs, comme un modèle stimulant. On ne trouve pas, ouvertement affiché, une hostilité envers l'Occident, pas du tout. C'est plutôt un stimulant et une interrogation sur sa propre culture. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai perçu de mes contacts avec les Chinois. Ce n'est pas de l'agressivité, mais c'est une interrogation sur sa propre culture. Est-ce que la culture chinoise a encore du temps devant elle ? L'intérêt que l'on porte à cette culture, est-ce que c'est uniquement une curiosité, une érudition, ou bien est-ce que la culture chinoise peut encore apporter quelque chose ? Alors, le problème se pose toujours, à moitié résolu seulement, parce que la technique est effectivement importée de l'Occident, et la Chine s'investit facilement dans la technique. Elle peut tout à fait se hisser au niveau des techniques occidentales. Mais la question est de savoir, est-ce que technique et culture vont ensemble? Ou bien on peut introduire une rupture. Est-ce que la technique ne serait pas une logique de la culture, la logique de la culture occidentale, telle qu'elle a évolué depuis quand même 1000 ans? Ou bien est-ce qu'on peut effectivement produire de la technique occidentale tout en conservant ses croyances, etc.?
Oui, un nouveau monde reste à inventer. Alors, voilà. On parle souvent de l'exportation du modèle occidental, que, évidemment, nous avons tendance à penser universel. Mais vous renversez la vapeur, vous posez la question de l'exportation du modèle chinois.
Oui, alors, l'autre question, disons que dans mon interrogation, ça pouvait être aussi une interrogation de type anthropologique. C'est-à-dire que bon, l'humanité était une au point de départ, mais elle s'est séparée, elle a vécu des expériences différentes, elle a donné des réponses différentes, de sorte qu'elle a produit une humanité extrêmement diversifiée. Alors, la question qui se pose à l'heure actuelle, c'est bien comment aborder la modernité. Les sociétés non traditionnelles, comme on dit, en voie de développement, s'interroge aussi sur la façon de s'introduire dans la modernité. Alors, elle rencontre effectivement des difficultés. La question qui se pose est de savoir si le modèle chinois qui a tant réussi à la Chine peut s'exporter dans des pays comme le Moyen-Orient ou l'Afrique. Donc, dans l'analyse que j'ai faite de la Chine, j'ai mis en avant les atouts de la Chine, c'est-à-dire enfin les atouts de son passé qui ont permis le succès de la Chine. Et évidemment, par contraste, je m'interroge sur la façon dont on peut exporter ce modèle dans d'autres pays. Ces atouts sont d'abord l'existence d'un État, je dis un État fort, mais un État tutélaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un État qui dispense, enfin qui produit, qui lance des injonctions seulement aux individus et les contraint. Ça, c'est vrai que l'État chinois est un État quand même omniprésent. Ça, c'est l'histoire de la Chine. Dans l'histoire de la Chine,
c'est le moins qu'on puisse dire quand même.
Oui, mais par exemple, dans la littérature chinoise, on entend souvent parler du peuple. Mais en fin de compte, le peuple, il est quand même assez absent.
Ah, il est aux ordres en tout cas.
Il est aux ordres. Par exemple, dans les entretiens de Confucius, on se réfère quand même au peuple, etc. Mais c'est souvent pour le gouverner. C'est-à-dire comment le gouverner de la meilleure façon.
Et c'est un vrai problème avec 1,3 milliard d'habitants aujourd'hui, beaucoup plus que du temps de Confucius.
Bien sûr. Pour répondre à cette question, c'est que l'empereur recevait quand même un mandat. S'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de démocratie représentative comme chez nous. Mais en principe, l'empereur n'était pas tout puissant, c'est-à-dire qu'il avait autour de lui quand même un corps de lettrés qui le servait, mais dont il avait quand même besoin des services. Il avait un censorat qui était censé quand même lui faire des remontrances. Enfin, tout ça, c'est dans la théorie, évidemment. Tout dépend
oui, après,
aussi
la pratique,
de l'état de la Chine,
oui,
à un moment donné.
Tout à fait.
Mais en principe, il ne pouvait régner que s'il répondait, s'il assumait certaines fonctions collectives. C'est notamment la défense du pays, la fourniture de subsistance suffisante pour les Chinois, la construction des travaux d'infrastructure, par exemple les barrages.
Ça continue, hein. C'est toujours l'État
continue,
qui fait les barrages.
Voilà, par exemple, quand vous voyez à l'heure actuelle un tremblement de terre, aussitôt vous avez l'armée qui arrive. On voit la différence entre les solutions apportées aux populations lors de ces catastrophes naturelles. On le voit en Chine et on le voit en Inde, par exemple. Il y a une grosse différence. En Chine, je crois que c'est relativement bien organisé, quand même.
C'est deux modèles de société.
C'est deux modèles de société. Et donc, j'appelle ça un État tutélaire. C'est-à-dire qu'il a quand même des obligations envers la population. Sans cela, il est éliminé. C'est le mandat du ciel qui lui est retiré. Voilà. Alors, ensuite, il a une population qui est cohérente, c'est-à-dire qui se reconnaît dans une, dans une civilisation commune, qui est habitué au travail de l'agriculture, c'est extrêmement dur, qui travaille, qui est discipliné, etc. Et cette discipline, vous la trouvez partout en Chine. Vous la trouvez dans les gares, enfin, sur la route, pas trop, mais
non,
enfin,
pas
ça tend quand même.
Non, c'est quand même très, voilà, très dangereux.
Parce
cette
que
route.
Les Chinois sont habitués à gérer la quantité. Mmh. Et ça, je crois, ce sont des. Ce sont des qualifications qui manquent quand même à l'Afrique, au Moyen-Orient, qui sont des territoires extrêmement morcelés du point de vue du territoire, enfin du point de vue de l'autorité centrale, de la cohésion sociale, sociologique, etc.
Oui, donc là, c'est pas comparable.
Voilà. Alors il y a de la corruption en Chine, mais ce n'est pas la corruption d'un clan, si vous voulez. À l'heure actuelle, la lutte contre la corruption en Chine, c'est un élément déterminant de la légitimité du pouvoir.
Oui, donc, c'est vrai, mais dire que ce n'est pas un clan, en fait, finalement, même le Parti communiste chinois est infiltré par la corruption. C'est corruption à
oui,
tous les
ça.
Étages.
Mais ce n'est pas la corruption. Elle peut être vue comme la corruption d'un individu ou de sa famille, mais ce n'est pas un clan.
C'est pas la mafia italienne.
C'est
pas la mafia italienne, c'est une autre, mais c'est
donc,
une mafia
corruption,
de
la corruption, c'est la corruption, quelle que soit la société, c'est un manque d'institutions. Et en Chine, il n'y a pas d'institutions écrites. En tout cas, on n'est pas habitué à obéir aux institutions écrites. Ce sont toujours des négociations, des lois. Ce ne sont pas des lois, ce sont des accords formels. Ce qui fait que, suivant les individus, suivant les circonstances... les échanges se font de façon plus ou moins légale. Je crois que c'est ça.
C'est
ça. Donc, pour parler de l'exportation du modèle chinois, je crois qu'il est très difficile d'exporter un modèle. D'ailleurs, on l'a vu dans le passé. Et on le voit d'ailleurs même à l'heure actuelle. Exporter le modèle occidental dans des sociétés dont l'évolution n'a pas abouti à ce résultat-là produit quand même des échecs.
Oui, tout à fait. Finalement, il ne faut rien exporter. modernité et capitalisme, ça veut dire la même chose en Chine ?
Je ne sais pas si les Chinois pensent... ils pensent au capitalisme, mais pas comme mode de production de leur société. Ils pensent au capitalisme comme organisation des multinationales qui s'implantent chez eux.
Et pourtant, leur mode de production aujourd'hui, à tous les Chinois, à tous les niveaux de l'échelle sociale, c'est bien du capitalisme.
Bien, du capitalisme, je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas que la Chine est gouvernée par le capitalisme. Le capitalisme, disons, il reste encore beaucoup d'entreprises d'État. Il y a beaucoup de petits secteurs. Il y a aussi beaucoup de petits entrepreneurs qui se résument d'ailleurs à des marchands de rue. Hein. Et l'État a quand même un poids très important en Chine.
L'État a un poids, mais vous, moi, ou tout le monde ici, demain, peut quand même aller monter une entreprise en Chine, et même un étranger.
Alors, peut-être. Ça, c'est la question est ouverte. La question est ouverte. Alors... La question est ouverte parce que l'État en Chine occupe une place très importante.
Pour les grosses entreprises.
Comment ?
Pour les grosses entreprises.
Pour les grosses entreprises peut-être, mais c'est aussi par exemple pour les... l'organisation sociale de la santé, l'éducation, l'État tient quand même sa place là-dedans. Et je pense que les gens tiennent aussi à ce que l'État intervienne sur le système de santé. C'est pas laisser... libre cours aux entreprises.
Bon, ça, c'est une discussion complexe.
L'État donne des indications. Par exemple, en 2010, il y a eu de grandes grèves dans l'automobile qui a mobilisé quand même les ouvriers des grandes entreprises japonaises, coréennes et taïwanaises. L'État a fini par intervenir en demandant qu'il y ait une négociation à l'intérieur des entreprises, entre les représentants des salariés et les chefs d'entreprise, mais ensuite a donné un signal fort aux provinces pour dire qu'il fallait augmenter les salaires de tout le monde. C'est-à-dire qu'il a une politique économique consistant en ce moment-là à favoriser le développement de la consommation. Donc, il fallait aussi augmenter le salaire.
Bien sûr.
Donc, je pense que l'État tient encore une place très importante en Chine de ce point de vue-là.
Est-ce qu'on peut dire que ce sont les classes moyennes qui ont en main les clés du changement ?
Alors, la notion de classe moyenne est toujours compliquée parce que c'est vrai que les contours sont assez flous. Mais bon, si on pense que les classes moyennes sont définies par un revenu, un certain niveau de qualification, effectivement, pour l'instant, si on pense que le changement est dans le... et dans l'ouverture sur l'extérieur, et dans l'élévation du niveau de vie et dans le mode de comportement, il y a effectivement un encouragement de l'État à ce que ces populations issues, enfin, ces populations dotées de diplômes se modernisent en adoptant quand même des modes de pensée qui soient urbaines déjà, parce que la Chine, jusqu'à présent, avait une population rurale extrêmement forte.
Bien sûr. Alors après, on va évoquer tous les problèmes que vous évoquez dans votre livre, d'ailleurs, les Mingong, les travailleurs déplacés. Moi, je me dis qu'avant d'être une société moderne, l'égalité homme-femme, il faudrait peut-être y penser. Il y a beaucoup de sujets importants qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui. Par contre, j'ai relevé une phrase... par rapport au marxisme aujourd'hui en Chine, un étudiant qui dit que ça ne veut rien dire et que ce n'est pas le marxisme de l'Occident. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il faudrait une heure entière pour savoir ce qu'est le marxisme chinois et ce qu'est le marxisme de l'Occident, mais là, ce n'est pas le propos. Alors, est-ce qu'à votre avis, face à la modernité et à la mondialisation, la Chine a atteint ses limites ?
Alors, face à la mondialisation, la Chine a-t-elle atteint les limites, ses limites ? Oh, je crois qu'elle a encore beaucoup à faire. Elle n'en est qu'à ses débuts, à mon avis. Elle a quand même 1,4 milliard d'habitants. Hein. Pour l'instant, ce qu'on appelle classe moyenne, ça représente 300 millions de personnes ayant un niveau de vie correspondant à celui de la France des années 1960. Donc, il y a quand même beaucoup à faire.
Alors, ouais. Cette fin de la politique de l'enfant unique, justement, est-ce que vous pensez que c'est excellent pour... la consommation ?
Ben alors, la politique de l'enfant unique, je crois qu'à un moment donné, ça a été quand même une nécessité. Ça a été beaucoup plus difficile qu'on peut l'imaginer en France, hein, parce qu'il y a eu quand même des avortements forcés. Il y a eu quand même des familles qui ont enfreint la loi et qui ont eu 2 à 3 enfants.
Oui, quitte puis même à la campagne, femme, oui, surtout à la campagne.
La femme a été pénalisée. Hein,
et les enfants qui ne sont pas reconnus par l'État ? Qui n'existe pas.
Il y en a énormément. Hein. Les personnes que j'ai connues, les familles que j'ai connues, ont eu des enfants. La femme a été pénalisée. Elle a fait quelquefois 2 ou 3 jours de prison.
Et elle a payé.
Elle a eu une amende. Elle a eu son, sa carrière freinée, etc. Mais pour le décollage de la Chine, je pense que ça a été quand même un élément favorable. Parce que Un État, une société est différente d'une famille. Mais on sait très bien qu'une famille nombreuse ne peut pas accumuler et puis s'enrichir à la génération d'après. Dans une société rurale telle qu'était la Chine, il était normal que d'une génération à l'autre, on soit stabilisé et qu'on ne s'enrichisse pas. Mmh. Une société moderne, un État qui a beaucoup qui a une grande population à satisfaire, a du mal à augmenter sa production. À l'heure actuelle, même avec une stabilité démographique, l'État chinois doit créer une quinzaine, 15 à 20 millions d'emplois par an. Donc, si vous voulez, s'il n'y a pas eu, c'est pas mal.
Et d'ailleurs, on n'a pas évoqué le chômage qui est à 4,2%.
Voilà,
aujourd'hui.
Donc ça a été une chance pour la Chine. Je pense que ça a été une obligation pour la Chine d'avoir un seul enfant. L'enfant unique aboutit à ce que la Chine risque de vieillir, enfin à vieillir,
ben oui, c'est pas
et
un
de
risque,
manquer
c'est...
de main-d'œuvre.
On y est.
Mais je dirais que. Vous avez des démographes et des économistes qui disent la Chine va manquer de main-d'œuvre parce que l'enfant unique, évidemment, ça diminue la population.
En tout cas, elle manque de filles si elle manque pas de
main-d'œuvre. Mais d'un autre côté, ils ne disent pas toutes choses étant égales par ailleurs. Parce que le manque de main-d'œuvre, c'est une projection à partir des conditions actuelles d'utilisation de la main-d'œuvre. Or, on sait qu'à l'heure actuelle, il y a une exploitation peut-être très dure d'une partie des Chinois, mais dans les grandes entreprises industrielles, multinationales, mais il y a énormément de population, de gens qui travaillent avec en sous-capacité. C'est-à-dire, par exemple, les vendeurs des rues. Donc, si vous voulez, ils ne produisent pratiquement rien. Donc, je pense que du point de vue quantitatif, effectivement, il y aura un manque de jeunes. Mais d'un autre côté, il faut aussi réutiliser les gens d'une façon plus efficace. C'est-à-dire, au fond, créer des emplois qui soient mieux organisés, qui soient plus productifs et avec des gens mieux formés. Bon, c'est-à-dire que pour un même travail, on aura moins de monde.
Très bien.
Je pense que c'est ça, surtout. Je pense qu'il faut voir les choses en évolution dans les deux sens. À la fois la population, mais aussi l'organisation, non seulement de l'entreprise, mais de la société elle-même.
Si eh bien, l'avenir le dira. Queen Delaunay, merci. Je rappelle votre ouvrage « Naissance de la Chine moderne, l'empire du milieu dans la mondialisation » paru aux éditions de l'Atelier.